Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la République c'est moi, dit Jean-Luc Mélenchon. Eh bien le voilà poursuivi pour menaces et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. La perquisition houleuse hier à la France Insoumise a donc des suites judiciaires. Je démissionne face à la haine de certains. Nouvelle crise dans le syndicalisme, l'affaire des fichiers oblige Pascal Pavageau à quitter Force Ouvrière. Il le fait dans une lettre publique au ton très amer. Bondy attend son champion du monde, Kylian Mbappé, revient dans la ville qu'il a vue grandir. C'est dans une heure, l'ambiance monte.
Je suis vraiment étonné de Kylian Mbappé parce que à 19 ans, c'est vraiment étonnant d'avoir mis autant de buts.
Après, moi, je trouve que c'est bien qu'un joueur de Bondy nous représente.
C'est, au moins, ça ne montre pas que le mauvais côté.
Je suis très fier de lui. Et nous retrouverons tout à l'heure Guillaume Batin à Bondy. Dans ce journal encore, l'éducation prioritaire. Plus d'1,5 milliard d'euros dépensés l'année dernière. Ça ne marche pas, dit la Cour des comptes dans un rapport. Nous en parlons avec notre invité Stéphane Crochet du syndicat SE-UNSA. Comme chaque mercredi, le conseil cinéma d'Eva Bétan. Bonjour Eva.
Bonjour. Alors c'est Capharnaüm de la Libanaise Nadine Labaki. Zaïn, enfant des rues à Beyrouth, un film audacieux gonflé. Il faut cela pour porter la misère à l'écran.
A tout à l'heure Eva. Dans l'Aude, les premières écoles rouvrent 2 jours après les inondations, la décrue se poursuit. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Météo France, quelle tendance aujourd'hui ?
Ça se calme autour du golfe du Lion, et même si le temps est maussade aujourd'hui, les pluies seront faibles cet après-midi des Pyrénées-Orientales au Languedoc-Roussillon. En revanche, Météo France a placé le département de la Haute-Corse en vigilance orange en raison de l'activité orageuse importante et du risque d'inondation. Prévoyez un ciel nuageux le long des côtes de l'Atlantique et en particulier vers le Finistère. Et partout ailleurs, le soleil va encore briller généreusement. Les températures sont toujours chaudes pour la saison. Oui. Comptez 15 à 18 en Bretagne et 18 à 24 partout ailleurs.
D'autres détails avant 13h30. Dans ce journal, nous parlerons également du succès des prénoms Caméléon, Gabriel, Adam, Jade, Lina. Ils marchent dans plusieurs langues, plusieurs cultures ou religions. C'est l'une des tendances du moment. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Et d'abord l'actualité aux confins de la politique et du droit. C'était prévisible, il y aura des suites judiciaires à ceci.
Allez, vas-y, essaye de vous pousser pour voir.
Ne touchez pas, vous ne me touchez pas.
Allez, touche-moi pour moi. Touche-le. Vous pour qui? Touche-le. Hein? Vous n'êtes pas le procureur, vous?
Un procureur avec un gilet pare-balles,
un truc de police?
Oui. Celui que vous n'êtes plus,
c'est qui? C'est vous que je pousse,
lui, là.
Le coup de sang de Jean-Luc Mélenchon et des insoumis contre la perquisition dans les locaux de leur mouvement hier matin. C'était dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires, l'une sur d'éventuels emplois fictifs d'assistants parlementaires européens à Strasbourg, l'autre sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Colère des insoumis, eh bien une 3e procédure est ouverte pour menaces et violences sur les enquêteurs, après ce qu'on vient d'entendre.
Précisément, menaces, actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Des faits passibles de 3 ans de prison. Enquête confiée à un autre parquet que celui de Paris pour des raisons d'impartialité. Alors, comment en est-on arrivé là? Ce que l'on sait à ce stade, c'est qu'il est 8h hier matin lorsque les enquêteurs de l'OCLIF, l'Office de lutte contre les infractions financières, et des magistrats du parquet se présentent devant le siège de la France Insoumise. Mais avant de commencer, ils font le choix, au-delà de toute obligation légale, d'attendre l'arrivée d'un responsable du parti. La perquisition débute alors tout à fait normalement de sources judiciaires, jusqu'à l'arrivée, plusieurs heures après, de Jean-Luc Mélenchon et de dizaines de personnes réclamant l'accès aux locaux. Cette entrée leur est interdite au nom de la perquisition toujours en cours et c'est là que ça dégénère. Sur les nombreuses images diffusées dans les médias, sur les réseaux sociaux, on peut constater des affrontements verbaux. Jean-Luc Mélenchon qui pousse un procureur, on l'a entendu. Le face-à-face qui devient physique, l'ambiance qui vire au chaos. L'opération de perquisition n'est plus possible. Elle a dû être interrompu.
Décidément, le syndicalisme en France est bien mal en point. Représentativité de plus en plus faible au fil des années, influence sur les politiques menées de plus en plus mince. Et à nouveau, le dirigeant d'un des syndicats doit démissionner. 3 ans après, Thierry Lepan, évincé de la CGT à cause de son train de vie fastueux. Pascal Pavageau démissionne de Force Ouvrière, le 3e syndicat français. Il paye l'existence d'un fichier constitué par des proches quand il faisait campagne pour la tête de Force Ouvrière. Des responsabilités qualifiées de niais, de dingue, d'anarchistes, de bêtes ou encore trop intelligents pour entrer au bureau confédéral. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Vous êtes au siège de Force Ouvrière Avenue du Maine où la direction élargie est réunie depuis ce matin. Pascal Pavageau part dans un climat délétère. Il publie une lettre. D'habitude, les querelles internes restent en coulisses. Là, elles éclatent au grand jour, hein, Laurent.
Oui, Pascal Pavageot explique avoir été déstabilisé en interne par un groupe souhaitant le faire tomber, lutte de pouvoir à force ouvrière. Pascal Pavageot souhaitait déclencher un audit financier. Vous m'en avez empêché. Les baronnies et les enjeux de pouvoir personnel, écrit-il, sont à l'origine de ce grand déballage et du vol de ces fichiers. Pascal Pavageot présente des excuses néanmoins à l'ensemble des militants, mais condamne violemment les auteurs de ces manœuvres et les attaques personnelles dont il aurait fait l'objet. Soyez fiers du mal que vous avez fait à l'organisation Force Ouvrière, conclut-il dans son courrier.
Et cette démission se passe au plus mauvais moment, hein, Laurent Kramer.
Oui, à seulement quelques semaines d'élections professionnelles dans la fonction publique, le 6 décembre prochain, Force Ouvrière traverse une zone de turbulence sans pilote dans l'avion pour mener ses élections, reconstruire également une image écornée par ce scandale et enclencher maintenant un lourd processus d'élection pour élire un nouveau numéro 1, élection qui ne pourront pas intervenir avant 2 à 3 semaines, le temps de réunir les 200 membres du Parlement de Force Ouvrière. Il y a donc urgence maintenant à désigner un nouveau numéro pour FO.
Laurent Kramer en direct de l'avenue du Maine à Paris. Alors un député poursuivi pour violence, un syndicaliste qui démissionne à cause de fichiers troubles. Qui pour donner l'exemple aux gamins de banlieue et de France? Eh ben un joueur de foot, Kylian Mbappé. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Bruno.
Vous êtes à Bondy. Kylian Mbappé revient dans la ville qu'il a vu grandir cet après-midi. C'est dans un peu moins d'une heure. On entendait l'impatience des gamins dans les titres. Quelle est l'ambiance?
Ah bah, le quartier est bouclé, l'avenue de Verdun qui donne accès au stade Léo Lagrange est totalement bloquée à la circulation depuis tôt ce matin. Des policiers municipaux, des CRS, les pompiers sont mobilisés dans toute la rue et autour du stade pour garantir la sécurité. Il y a déjà beaucoup d'enfants, c'est mercredi forcément, devant la grille. Les premiers sont entrés il y a une vingtaine de minutes en courant et en criant. La plupart d'entre eux portent le maillot du Paris Saint-Germain, évidemment. Leur idole Kylian Mbappé arrivera, alors c'est les dernières infos, hein, c'est comme une star ou une diva de cinéma. Entre 15h et 15h30, mais on ne sait pas bien, dans le stade où il a fait ses premiers matchs, marqué ses premiers buts, où il a fait aussi forte impression aux émissaires de l'AS Monaco, son premier club professionnel. Il dira quelques mots au micro sur scène face à 9 à 10 000 personnes, probablement quelques autographes aussi. En tout cas, ça fait des semaines, des mois que les Bondinois attendent leur champion du monde et aussi l'autre star, la Coupe du Monde.
Évidemment, merci Guillaume Batin. Et on rappelle qu'hier, la France a battu l'Allemagne 2-1 au Stade de France. Pas de but d'Mbappé, mais un doublé de Griezmann.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Nous en venons à l'actualité politique, les suites du remaniement et le service après-vente de ce remaniement. Emmanuel Macron ressent le besoin d'en remettre une dose. Après la télévision hier, une petite vidéo issue du Conseil des ministres. C'était le premier de ce nouveau gouvernement ce matin. Pas de nouveau cap, ni de nouvelle politique, a dit le président hier à la télévision, mais...
Il y a une impatience, il y a des colères, il y a des blessures, il nous faut y répondre sans facilité, et ça n'est jamais ce qui a été retenu depuis 17 mois, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes et en essayant d'avoir une action durable, cette transformation dont nous parlons si souvent. Et cette nouvelle organisation, je pense, permet d'y répondre.
Voilà, Emmanuel Macron au Conseil des ministres ce matin. Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter, on continue d'examiner avec vous les conséquences politiques de cette période. Et une des caractéristiques du paysage politique depuis notamment l'émergence de la République en marche, c'est son éparpillement. Il y a eu une nouvelle étape ce matin, Yael. Il y a désormais 8 groupes politiques à l'Assemblée nationale, c'est inédit.
Et c'est un record sous la 5e République. Le projet était sur la table depuis le printemps, depuis l'examen de la loi Asile-Immigration. Quelques députés marchent à l'époque avaient claqué la porte de leur groupe. Cette fois, le compte y est. Le seuil minimal de 15 députés est dépassé. Ils sont 16 au profil très différent. Alors là, c'est un peu l'auberge espagnole. Vous avez des radicaux, des centristes fâchés avec l'UDI, d'anciens marcheurs donc, un ex-socialiste, François Pupponi, et des non-inscrits, les 3 députés nationalistes corses, et un autre de Wallis et Futuna. Très différents donc, mais réunis sous une même bannière, liberté et territoire. L'idée étant de profiter du mea culpa d'Emmanuel Macron vis-à-vis des élus locaux et de défendre une République plus décentralisée. Au final, où se situera ce 8e groupe? Ni dans la majorité, ni dans l'opposition, explique l'un de ses fondateurs, Olivier Falorni.
Ce sera le seul groupe indépendant. Vous ne pourrez, vous les journalistes, jamais dire à l'avance ce que nous ferons. puisque nous ne serons pas dans des réflexes pavloviens. Nous ne voterons pas systématiquement contre, nous ne voterons pas systématiquement pour. Nous serons le véritable groupe constructif de cette Assemblée nationale.
Constructif, allusion à l'entrée au gouvernement de Franck Riester, qui avait fondé le groupe Agir au centre droit. Son départ accélère la naissance de ce huitième groupe. Alors, quel intérêt concret pour les parlementaires qui ne pensent pas tous la même chose, notamment sur la Corse? Eh bien, ils auront des moyens, 4 collaborateurs et plus de temps de parole. Voilà qui ne va pas plaire au président, qui s'agace régulièrement du délai entre le dépôt d'une loi et son application. 8 groupes, ça veut dire plus de démocratie, mais forcément un travail parlementaire qui sera ralenti.
Et vous parliez de centristes fâchés, voici un centriste pas fâché. Le député de Savoie, Patrick Mignola, devient président du groupe Modem après l'entrée de Marc Fesneau au gouvernement. Les nouveaux ministres et secrétaires d'État étaient ce matin les invités des radios et télévisions. Gabriel Attal, par exemple, secrétaire d'État à la jeunesse sur France 2. Question, alors que l'usage du cannabis s'est légalisé aujourd'hui au Canada, possible en France ou pas ?
La France est un des pays les plus répressifs en matière de cannabis et c'est pourtant un pays où les jeunes fument le plus. Moi, je suis pas pour que tous les jeunes se mettent à fumer du cannabis parce que j'ai vu, y compris dans mon entourage, des personnes qui en ont beaucoup souffert. Donc, je suis pas favorable à une légalisation, mais je pense qu'il faut toujours regarder tous les sujets sans tabou et se poser les bonnes questions.
Le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, ce matin sur France 2. Quels sont les prénoms à la mode? Ils ne changent pas beaucoup, à vrai dire. Chez les filles, dans l'ordre, Emma, Louise, Jade, Alice et Mila. Chez les garçons, Gabriel, Louis, Raphaël, Léo et Adam. Parmi les 10 que je viens de citer, il y a quelques prénoms caméléons. Alors, Kézako, eh bien, ce sont les prénoms qui marchent dans plusieurs langues, plusieurs cultures ou religions. Écoutons Stéphanie Rapoport, c'est l'auteur de L'Officiel des prénoms qui est demain en librairie. Quelles familles choisissent les prénoms caméléons?
Ça peut être des couples mixtes qui ont des traditions religieuses différentes. Je pense à Adam, Éden ou Noé, qui séduisent les parents parce qu'ils peuvent avoir une résonance dans différentes religions. Des non-croyants aussi, évidemment. Ça peut être des parents de génération Erasmus qui ont voyagé durant leurs études en Europe, qui vont réfléchir aux sonorités pour qu'elles puissent voyager à l'étranger. Je pense à Anna, par exemple, qui n'a pas besoin de changer de lettre pour s'exporter d'un pays à l'autre. Gabriel, Louis et Raphaël, ces prénoms ont l'avantage d'être à la fois internationaux et à la fois très français, puisque une partie d'entre eux sont des prénoms intemporels, anciens ou rétro, considérés par les Français comme étant bien français.
Un propos recueilli par Sébastien Sabiron et L'Officiel des prénoms est donc en librairie demain. Après les prénoms, les places en crèche, vous peinerez à le croire si vous galérez pour en obtenir. Mais il y en a un peu plus au fil des années. 11 000 places ont été créées, selon les derniers chiffres des caisses d'allocations familiales, entre 2016 et 2017, essentiellement grâce à la création de micro-crèches. Nous restons dans le domaine de l'éducation, mais tout autre. Autre sujet avec notre invité Stéphane Crochet, le secrétaire général du syndicat SE-UNSA. Bonjour monsieur.
Bonjour.
La Cour des comptes publie aujourd'hui un rapport sur l'éducation prioritaire, rapport assez sévère. En résumé, l'effet est très faible sur les résultats scolaires des élèves. On va entendre le détail avec Sonia Bourane. D'abord Stéphane Crochet, est-ce que vous partagez ce constat d'échec de l'éducation prioritaire ?
Alors d'échec, non, sûrement pas. D'un effet insuffisant, peut-être. Et ce rapport a regardé les effets sur 2006-2016. Et il y a eu une profonde réforme de la voie, de l'éducation prioritaire en 2014-2015, dont on mesure, en tout cas la Cour des comptes, ne mesure pas les effets.
Alors, on entend le rapport de la Cour des comptes et après vos objections. Sonia Bourane.
Pour la Cour des comptes, la politique d'éducation prioritaire est indispensable, mais elle n'est pas suffisamment ciblée. Les moyens supplémentaires sont trop dilués. Alors que l'objectif est de diminuer de 10% les écarts de niveau entre les élèves en éducation prioritaire et les autres, en réalité, les écarts sont de 20 à 30% selon les disciplines évaluées au brevet en fin de troisième, et les inégalités sont acquises avant la sixième. Le rapport insiste sur l'école primaire. Il faut orienter les moyens budgétaires sur les petites classes et réduire la taille de ces classes, scolariser le plus tôt possible les enfants de milieux défavorisés, ce qui va tout à fait dans le sens de la politique d'Emmanuel Macron, les dédoublements de CP et CE1, l'instruction obligatoire à 3 ans, mais la Cour des comptes va plus loin, les primes ou les décharges horaires accordées aux enseignants de REP+ n'ont pas suffi à attirer les plus expérimentés d'entre eux, il faut rendre le niveau de rémunération encore plus attractif, n'affecter dans ces établissements que des professeurs ayant au moins 2 ans d'ancienneté, donner plus de pouvoir aux chefs d'établissement et pratiquer des évaluations régulières, des évaluations encore une piste déjà proposée par l'actuel gouvernement.
Stéphane Crochet, syndicat SE-UNSA, vous êtes toujours avec nous. Pas assez ciblé, moyen trop dilué, dit la Cour des comptes. Est-ce que ce constat, vous le partagez ?
Les moyens ont été resserrés il y a déjà 3 ans et surtout ils ont été accompagnés d'un volet pédagogique, d'un volet professionnel. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir moins d'élèves par classe et d'avoir une meilleure rémunération, depuis 3 ans, il y a un fort accompagnement professionnel pour du coup travailler autrement dans ces établissements scolaires. C'est-à-dire que, très concrètement, oui, nos collègues ont moins d'heures d'enseignement ou des jours libérés pour avoir des temps de formation et d'accompagnement spécifiques pour construire et mener leurs projets dans leur école ou leur établissement. C'était quand même le volet professionnel qui manquait à la politique d'éducation prioritaire.
Alors, on rappelle que l'éducation prioritaire, c'est 1,7 milliard d'euros l'année dernière pour 20% des élèves. Ça n'est pas rien, hein. Plus de 1000 établissements. Est-ce que malgré tout, il faudrait la concentrer, cette politique et ses moyens, sur les REP+, les établissements les plus fragiles?
Il faudrait peut-être surtout dépasser une approche macro, une approche globale que la Cour des comptes a, et regarder désormais des territoires en particulier. Les dernières mesures nous semblent avoir fait passer des caps sur l'éducation prioritaire, mais qui sont implantés dans des lieux qui ne sont pas complètement, qui correspondent pas complètement à l'éducation prioritaire. Pour être plus clair, je veux dire que travailler en éducation prioritaire à Lille, à Bordeaux, à Toulouse semble être devenu beaucoup plus attractif parce que, en revanche, on a conservé, quand on est enseignant, un lieu de vie qui lui est déconnecté de cet endroit de travail. En revanche, en région parisienne et particulièrement en Seine-Saint-Denis, en Guyane, là on voit que on bute sur le fait que travailler en éducation prioritaire, ça veut dire vivre en éducation prioritaire, et là on a des éléments d'attractivité où il faut passer des caps, et donc il faut aussi passer un cap sur cette démarche macro et globale et regarder des territoires désormais.
Et alors, comment passer ce cap? C'est du coup une politique plus large à destination des banlieues, pour le dire vite.
Alors, il y a une politique globale à mener pour le territoire. Et puis, si on veut parler de l'attractivité pour les enseignants, si on veut que des enseignants viennent d'ailleurs relever ce défi professionnel qui peut être particulièrement intéressant, il faut venir les soutenir dans leurs conditions de vie. Ça veut dire qu'il va falloir accompagner les questions de logement, il faut absolument sécuriser le fait de pouvoir repartir au bout d'un certain temps de l'endroit plus favorisé d'où on venait.
Ouais. On l'entendait dans les explications de Sonia Bourane, les mesures mises en place depuis le début du quinquennat, dédoublement, instruction précoce, rémunération plus élevée, plus d'autonomie du chef de l'État, les mesures mises en place ou les projets vont dans le bon sens s'agissant de l'éducation prioritaire. On sait que les syndicats sont de plus en plus critiques à l'égard de la politique Blanquer. Est-ce que, s'agissant de l'éducation prioritaire, elle va dans le bon sens, selon vous, Stéphane Crochet?
Pour nous, à l'UNSA, on est quand même très dubitatif sur l'idée d'une prime par variable en fonction du projet. Nos collègues en éducation prioritaire sont pleinement engagés et la question d'une par variable les hérisse particulièrement. En revanche, évidemment, la question des effectifs, mais pas seulement en CP et en CE1, et d'ailleurs le rapport le dit, en revanche, qu'il faut commencer dès l'école maternelle.
Oui.
On sait bien que dès la première scolarisation et dans une politique plus large, dès la toute petite enfance, on est là sur des leviers essentiels pour la réussite scolaire au sens le plus large.
Ce que dit le rapport aussi, c'est qu'il y a un côté infamant à cette étiquette et qui empêche certaines familles d'aller vers ces établissements. Comment corriger cela? C'est-à-dire mettre une étiquette, ça permet de flécher des moyens et en même temps, ça limite la diversité des publics.
Alors là, il faut éviter les postures. En effet, il y a bien une préoccupation autour de cette étiquette.
Ouais.
Cette étiquette, elle permet d'avoir des moyens et de les avoir consolidés. Donc c'est un plus, un vrai plus. Et l'éducation en éducation prioritaire peut même être particulièrement intéressante et épanouissante pour les élèves. Mais elle peut faire courir le risque de faire fuir un certain nombre de familles. Et donc le rapport préconise du coup de travailler sur la mixité sociale, et là aussi je voudrais dire, parce que le rapport n'en parle pas, il y a eu des débuts d'expériences conduites notamment à Paris sur les toutes dernières années, des conclusions, mais on ne tire pas de conclusion pour l'instant.
Merci beaucoup Stéphane Crochet, syndicat SEUNSA, d'être venu répondre à nos questions dans les studios de France Inter sur ce rapport de la Cour des comptes.
Quand l'avocat Éric Dupond-Moretti enfile sa robe et plaide en cour d'assises, l'audience devient souvent fracassante. Hier encore, lors d'un procès qui est déjà assez hors du commun, procès Pastor, qui a tué la milliardaire Hélène Pastor à la sortie de l'hôpital de Nice, suspect numéro 1 depuis longtemps, son gendre Wojtek Janowski, qui niait les faits. Eh bien hier, son avocat Éric Dupond-Moretti a reconnu les faits à sa place. Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Bruno.
Vous suivez ce procès aux assises. On attendait du coup l'audience de ce matin, Jean-Philippe. Eh bien, Wojtek Janowski a présenté ses excuses.
Oui, après cette plaidoirie émouvante, rarissime en cour d'assises et même inédite pour Éric Dupond-Moretti, après ses aveux par procuration hier, Janowski a ce matin passé des aveux implicite, juste avant que le jury et la cour se retirent pour délibérer. Pas de « je suis coupable », non, juste « j'exprime mes excuses auprès de Sylvia, sa compagne et la fille d'Hélène Pastor, et de mes enfants, Olivia et Laura ». Alors, cette reconnaissance tardive de culpabilité aura-t-elle un poids sur le verdict tout à l'heure? Pas forcément. On suppose surtout que les jurés et la cour sont en train de discuter longuement du quantum des peines. Vendredi dernier, l'avocat général avait réclamé 3 fois la peine maximale, la perpétuité pour le commanditaire Janowski donc, et pour les deux exécutants de ce double assassinat, 3 perpétuités et une peine de 30 ans de réclusion pour le coach sportif de Janowski, celui qui a organisé le crime et qui a toujours assumé ses responsabilités. Si la cour d'assises se montre sensible aux arguments de la défense tout à l'heure, elle pourrait prononcer des peines moins lourdes, par exemple 30 ans pour Janowski, 20 ans pour son coach. C'est tout l'enjeu de ce procès fleuve qui s'achève ici, à Aix-en-Provence.
Jean-Philippe Deniaud en direct d'Aix-en-Provence avec nous pour ce procès Janowski. Nous allons dans l'Aude à présent. La décrue se poursuit plus de 48 heures après les inondations. Les premières écoles rouvrent, alors pas évidemment dans le secteur du département qui a été le plus touché, mais nous allons à Bram avec Thibault Lefebvre à la sortie du collège Saint-Exupéry qui a donc rouvert ce matin. On devine le principal sujet de conversation.
Une sortie de classe pas tout à fait comme les autres pour Ezio et ses copains de 5e. Toutes les discussions tournent depuis ce matin autour des inondations et de la situation des sinistrés.
C'était plein de rentrer comme on rentre des vacances, voilà, ça flottait, c'est pas forcément toujours facile d'en parler, c'est un peu tendu. On se dit tous qu'il y a des familles qui ont perdu des proches, on pense aux personnes, aux familles des victimes et à ce qui s'est passé, le drame qui s'est passé. Moi-même, ça me fait quelque chose de penser à ça.
Certains enseignants ont lancé la discussion en classe, comme la professeure de français d'Audrey, 15 ans.
Elle nous a dit qu'elle était allée aider les gens en difficulté, qu'elle leur avait amené des oreillers, des couvertures. Elle nous dit qu'elle ne pourra pas corriger nos copies, car elle va aller aider encore aujourd'hui les gens en difficulté à Villegayenc.
La maman d'Audrey, Nadia, l'attend à la sortie. Elle n'a pas été sinistrée, mais pour elle, il était temps que ses 3 enfants reprennent une vie normale.
De voir tout ce qui s'est passé à la télé, les images, ils se sont imaginés nous sous la flotte. Ils se parlaient entre eux, ils disaient que les barrages allaient les céder. Voilà, ils avaient très peur, quoi. Ouais. Puis il y en avait qui étaient sur Trèbes, donc ils les tenaient au courant. C'est vrai que ça a été perturbant pour nos enfants.
Les écoles, les collèges et les lycées fonctionnent depuis ce matin dans une 50aine de communes. Selon la préfecture, 100aine de villes du département ont été touchées par les inondations.
Et la préfecture publie également un nouveau bilan humain de cette catastrophe. Au moins 14 morts et une personne portée disparue. L'actualité à l'étranger, l'affaire Khashoggi, la mort dans des conditions plus que troubles de ce journaliste saoudien critique vis-à-vis du régime. Beaucoup d'indices accusent le pouvoir à Riyad. Jamal Khashoggi a très vraisemblablement été tué dans le consul saoudien à Istanbul, sur ordre direct de la monarchie où passe la reste à déterminer. Un autre pays joue un rôle clé dans cette histoire. Les faits se sont déroulés sur son sol, c'est donc la Turquie. Le chef de la diplomatie américaine est en Turquie aujourd'hui. Anand Lower, on n'en a jamais fini avec le cynisme dans le monde de la diplomatie. La Turquie pourrait utiliser cette histoire pour négocier un gros chèque avec l'Arabie.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan, d'ordinaire peu avare de commentaires publics, ne s'est que très peu exprimé sur l'affaire Khashoggi, laissant ses conseillers et d'autres officiels distiller anonymement des fuites sur l'enquête dans la presse. Son ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, s'en tient à des déclarations tout aussi mesurées. Les dirigeants turcs semblent certes déterminés à faire la lumière sur le sort du journaliste saoudien, sachant que le monde les regarde, mais ils veulent aussi ménager Riyad et son prince héritier Mohamed Ben Salman. Si les autorités saoudiennes finissent par reconnaître que Jamal Khashoggi est mort pendant un interrogatoire mené sans l'autorisation des dirigeants du royaume, Ankara pourrait même s'en accommoder à défaut d'y croire une seconde. Car en ces temps difficiles pour l'économie turque où la récession guette sur fond de chute de la monnaie, des prêts à taux réduit de Riyad pourraient s'avérer très utiles. Les Saoudiens sont par ailleurs de gros investisseurs en Turquie, notamment dans l'achat de biens immobiliers, où ils occupent la deuxième place, juste derrière les Irakiens. Ankara se garde donc de déclencher une crise, d'autant que ses relations avec Riyad se sont déjà beaucoup tendues ces dernières années. Dans le Istanbul, France Inter.
L'actualité à l'étranger, c'est encore ces 10 morts dans un collège de Kerch en Crimée. 10 morts dus à un engin explosif non identifié. Une enquête pour actes terroristes est ouverte. Nous en venons à présent aux sorties cinéma du mercredi en France. Dans la catégorie « Les téléphones portables peuvent faire exploser votre vie », il y a la comédie « Le jeu » avec Bérénice Bejo et Stéphane De Grotte sur les écrans aujourd'hui. Catégorie « Qu'est-ce qu'on fait des enfants cet après-midi », il y a « Yeti et compagnie ». Catégorie « La vie après un triomphe », Damien Chazelle, l'auteur de « La La Land » sort « First Man » sur Neil Armstrong. Et puis la catégorie « Coup de cœur », Eva Bétan, comme promis, vous nous avez rejoint, vous nous conseillez « Capharnaüm » de la Libanaise Nadine Labaki, qui a obtenu le prix du jury à Cannes. Pourtant, les critiques étaient mélangées, hein, divisées.
Oui, parce que c'est un cocktail singulier. Oui. Misère et romanesque, je veux dire, pour simplifier. Deux mots qu'il n'est pas évident d'accoler. Encore que Charlie Chaplin, encore que Les Misérables. Mais Nadine Labaki ne va pas construire une fiction, même documentée, à partir de personnages. Ce sont des gens dans la grande misère.
L'histoire des gamins des rues à Beyrouth.
Oui, mais toute une famille. Il y a des gamins des rues, mais aussi leur famille. Ouais. C'est des gens dans la grande misère qu'elle fait jouer... Quel prend comme, entre guillemets, acteur. Ainsi, Zahin, le garçon, c'est un enfant de réfugié syrien qu'elle fait jouer. Et je veux dire qu'elle ne s'arrête pas là. Il y a un côté quasi documentaire. Elle nous montre l'horreur de leurs conditions de vie. Et à cela, elle répond en faisant pas du cinéma à l'économie. Oui, en faisant du cinoche. Oui, en faisant du romanesque. Il y a dedans la fillette que ses parents Marie, j'ai envie de dire, vendent à l'épicier du coin. Mmh. Il y a son frère Zahin qui s'enfuit parce qu'il devient un gosse des rues. Et à un moment donné, il se retrouve à devoir s'occuper d'un bébé, on se dit non, c'est trop, elle va se casser la figure. On a peur et en même temps, c'est un moment formidable et elle ne se casse pas la figure.
Elle tient sur ce fil.
Je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. Parce qu'on n'oublie jamais que ça existe pour de vrai. Ce qu'elle nous donne à voir est la misère. Et ça, son romanesque ne le fait pas oublier. Mais le romanesque, ça a une vertu. C'est que ça donne à ces gens la dignité, l'envergure de personnage. Et cette scène, on le sait, donc je déflore pas le sujet, l'enfant fait un procès à ses parents en disant « Pourquoi vous m'avez mis au monde ?» C'est nous, à nous qu'il fait le procès. Et elle donne aux gens dans la misère la dignité du tribunal pour s'exprimer, pour dire est-ce que vous savez ce que c'est que la misère? Voilà pourquoi je dis que par moments, il faut être fou, il faut de l'audace pour oser certains films et pourquoi je recommande Capharnaüm.
Misère et romanesque, Capharnaüm sur les écrans cette semaine. Merci Eva Bétan.